Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Rome et Constantinople. Je vous propose que dans notre parcours historique sur les grands conciles de l'Église indivise, c'est-à-dire antérieurs au schisme entre Orient et Occident, nous nous arrêtions aujourd'hui sur Rome et Constantinople, ces deux villes qui symbolisent à elles seules la rivalité et le fossé qui se sont creusés tout au long du premier millénaire entre les deux composantes de la chrétienté. J'emprunte une bonne partie de ce que je vais vous dire à l'étude que l'universitaire Philippe Blaudeau a consacrée à ce sujet. On se rappelle que c'est l'empereur Constantin qui a fondé Constantinople, après sa victoire de Chrysopolis en 324 sur son dernier rival Licinius. Il établit la nouvelle ville sur le site de l'antique Byzance, du côté européen du Bosphore. Mais à ses débuts, elle est petite et fragile. C'est Théodose le Grand qui, à partir de 380, lui donnera toute son importance en la définissant comme Nouvelle Rome. Il faut se rappeler que Théodose a été le dernier empereur à régner sur l'Empire romain unifié. Après lui, la décadence de l'Empire d'Occident se poursuit, tandis que Rome, prise et saccagée en 410 par Alaric, n'en est plus la capitale. Dès lors, l'étoile de Constantinople continue à monter et la nouvelle Rome ambitionne de bénéficier des prérogatives de l'ancienne. Le concile de Chalcédoine en 451 va précipiter cette évolution. En effet, dans son 28e canon, voté en l'absence des légats du pape Léon, le concile donne à l'évêque de Constantinople le pouvoir d'ordonner les évêques métropolites du Pont, la mer Noire, de Thrace et d'Asie, c'est-à-dire du Proche-Orient. Et par le fait même, le concile place le patriarche de Constantinople en Orient sur un pied d'égalité avec l'évêque de Rome en Occident. Inutile de préciser que Saint Léon refuse catégoriquement de reconnaître la validité de ce canon de Chalcédoine. Il dénonce la collusion avec le pouvoir politique qui sous-tend cette décision et rappelle que l'autorité de Rome ne repose pas sur son pouvoir politique, mais sur le fait que le premier évêque de Rome est Saint Pierre, désigné chef des apôtres par Jésus lui-même. Dans sa lettre au concile du 21 mars 453, Saint Léon, pressé par l'empereur Martien de ratifier solennellement les actes du concile de Chalcédoine, précise qu'il approuve toutes ses décisions, mais seulement sur les questions touchant la foi. Jamais, au grand jamais, Rome ne consentira à ce 28e canon. Dès cette époque, en tout cas, la relation avec Constantinople joue un rôle de premier plan pour les différents papes. Dans sa résistance aux prétentions de Constantinople, Rome est soutenue par le patriarcat d'Alexandrie, censé avoir été fondé par l'évangéliste saint Marc, et qui voit d'un très mauvais œil les prétentions de Constantinople. Nous avons vu à quel point cette rivalité avait interféré dans les disputes entre les deux écoles théologiques, puis dans le combat de Cyril d'Alexandrie contre Nestorius de Constantinople, et enfin dans le combat de Flavien de Constantinople contre Dioscore d'Alexandrie, qui soutenait l'hérésie d'Eutychès. Les relations privilégiées entre Rome et Alexandrie datent au moins du IIIe siècle, et elles se disent fondées sur la proximité entre Saint-Pierre et Saint-Marc à l'époque apostolique. On se souvient de la grande figure d'Athanase d'Alexandrie dans la lutte contre l'arianisme. Le rôle d'Alexandrie rebondit au siècle suivant avec Cyril et le concile d'Éphèse, ou Constantinople avec Nestorius et dans le camp des accusés. Mais de plus en plus, le pouvoir impérial assume à Constantinople le rôle qu'avait tenu Constantin au siècle précédent. C'est le cas à Chalcédoine avec Martien, ce sera le cas un siècle plus tard à Constantinople II avec Justinien. En attendant, on signale une rivalité des reliques des saints entre Rome et Constantinople, Rome refusant de livrer à Constantinople des reliques des apôtres Pierre et Paul, et Constantinople, de son côté, accumulant les reliques qu'elle trouve. Avant 450, elle réunit ainsi un premier chef, une tête, de Saint Jean-Baptiste, des restes de Samuel, d'Isaïe peut-être, et encore de Joseph, fils de Jacob, ou de Zacharie, qui accrédite ainsi, sous le règne de la dynastie théodosienne, la participation prophétique de la cité de Constantin au plan de Dieu. Mieux, l'obtention mémorable des reliques de Saint-Étienne conforte la conviction de plus en plus nettement assumée selon laquelle elle est aussi la Nouvelle Jérusalem. Et pour parachever cet appétit de recherche d'origine biblique et apostolique, Constantinople va forger un autre mythe à partir du 7e siècle, celui d'une fondation concurrente de Rome qui serait l'œuvre de saint André, dont on souligne avec complaisance qu'il a été le premier appelé par le Christ, avant Pierre donc. Cependant, ce n'est pas tant le patronage de saint André que celui de Marie Théotokos que revendiquera jusqu'au bout la seconde Rome, et là encore, on veut faire mieux que Rome, qui n'est, elle, que sous la protection des apôtres Pierre et Paul. Ce jeu de préséance peut paraître bien puéril. Il l'est dans ses diverses péripéties, mais il ne l'est pas dans ses conséquences politiques et ecclésiales, où Rome répond à Constantinople en mobilisant d'autres critères que le critère administratif ou celui du nombre de reliques. Dès le pontificat du pape Damase, qui a été pape de 366 à 384, Rome se donne le titre de siège apostolique, tout en concédant celui de deuxième siège à Alexandrie, où Marc a été délégué par Pierre dans sa mission d'évangélisation, et celui de troisième siège à Antioche, où pour la première fois les disciples ont reçu le nom de chrétiens. Le principe est que seuls les sièges qui peuvent s'honorer d'une présence missionnaire durable de Pierre ou de son envoyé Paul peuvent revendiquer à bon droit d'occuper un rang principal. Autant dire que du point de vue romain, Constantinople vient loin derrière. Pourtant, jusqu'au pontificat de Saint Léon le Grand, c'est bien l'Église d'Orient qui surclasse celle d'Occident. Les Écritures du Nouveau Testament ont été rédigées en langue grecque, et lorsqu'elles citent l'Ancien Testament, elles le citent dans la traduction grecque élaborée peu avant notre ère à Alexandrie. La théologie de langue grecque est elle aussi très en avance sur la théologie latine, comme la civilisation grecque elle-même avait surpassé jadis la civilisation romaine, au point que, selon le poète Horace, la Grèce captive avait fait captif son farouche vainqueur. Nous avons parlé à propos de la crise arienne de ces très grands théologiens que furent les pères cappadociens, saint Basile, saint Grégoire de Nice, saint Grégoire de Nazianze. Le même saint Basile, d'ailleurs, agacé par une décision du pape, ne s'était pas gêné de vilipender, je cite, « cet évêque de Rome qui situe son trône à je ne sais quelle hauteur ». Et c'est l'empereur Théodose le Grand qui convoque en 381 le concile de Constantinople, au cours duquel on proclamera dans le célèbre canon 3 que, je cite, « l'évêque de Constantinople doit avoir la primauté d'honneur après l'évêque de Rome, car cette ville est la nouvelle Rome ». Ce texte ne parle que de l'honneur et non de l'autorité à proprement parler, mais il consacre l'importance du rôle politique bien supérieur à celui de Rome que tient désormais Constantinople. La crise nestorienne permettra à Rome et Alexandrie de renforcer leur proximité contre l'hérésie de Nestorius, évêque de Constantinople. Mais avec la crise monophysite, la distance entre les deux églises va au contraire se creuser, puisque cette fois c'est Alexandrie qui penche du côté de l'hérésie. Mais le pape Léon, si convaincu qu'il soit que sa mission trouve origine dans le seul apôtre Pierre, qui, selon ses propres termes, a reçu le principat apostolique, ne réussira pas, comme nous l'avons dit, à empêcher l'intégration aux actes de Chalcédoine du 28e canon, qui laisse désormais le champ libre au patriarche de Constantinople pour la nomination des évêques en Orient. Ce 28e canon est ainsi rédigé, je le cite. « Suivant en tout les décrets des saints-pères, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la Nouvelle Rome, sous Théodose le Grand de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la Sainte Église de Constantinople, la Nouvelle Rome. Les pères ont en effet accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mus par le même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la Nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du Sénat, et jouissant des mêmes privilèges civils que ceux de Rome, l'ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'Église, tout en étant la seconde après elle. En sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l'Asie et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques en terre barbare qui relèvent des diocèses indiqués ci-dessus, seront sacrés par le Saint-Siège de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée. Deux choses sont remarquables dans ce texte. D'abord que la supériorité reconnue à Rome ne porte que sur la préséance, c'est une supériorité purement honorifique. Ensuite, que le fondement du rang de Constantinople n'est pas théologique, mais politique. Il est justifié par le fait que Constantinople est maintenant la ville de l'empereur. On voit comment ce texte contient déjà en germe les drames ultérieurs. Non seulement le conflit entre l'orthodoxie et le catholicisme, mais aussi la subordination de l'Église au pouvoir politique en pays orthodoxe.